Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Mag au carré. Comme chaque mois, je suis avec Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée au boom des demandes de placés à Montpellier, cinquième métropole régionale. Aujourd'hui, justement, pour parler de cette belle ville, de cette belle région, notre invité est Bernard Defesquet, président de CFC Développement, donc promoteur de bureau, qui est à Pézenas, dans l'Hérault. Et on va se connecter à Pézenas, justement. Bonjour Bernard.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Eh bien, écoutez, ma foi, je vais fort bien. Je reviens d'un déplacement professionnel à Lisbonne avec le club de l'immobilier, donc beaucoup d'amis, où nous avons rencontré des gens extrêmement dynamiques, des gens sympathiques. Ça s'est très bien passé. Voilà.
Eh bien,
ils ont de l'essence.
Eh bien, on est ravis. Dans quelques instants, on va découvrir donc CFC Développement. Juste avant, on commence avec votre édito, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Cinquième métropole régionale en termes d'attractivité, Montpellier attire de plus en plus d'habitants, d'entreprises et donc d'investisseurs. La métropole qui regroupe 500 000 habitants en accueille 7500 de plus en moyenne chaque année et ce depuis 10 ans. La métropole accueille également de plus en plus d'entreprises sur son territoire. Jamais autant de mètres carrés de bureaux et de locaux d'activité n'avaient été commercialisés qu'en 2021. Et oui, les demandes placées ont affiché deux records en 2021, 112 000 et 115 000 mètres carrés. Par voie de conséquence, la métropole fait tourner la tête des investisseurs, mais, gros mais, leur engouement est freiné par la pénurie d'offres. Seulement 80 millions d'euros ont été investis sur le marché montpelliérain en 2021. C'est moins 10% par rapport à 2020 et surtout moins 45% par rapport à 2019. Mais approfondissons le sujet avec Bernard Defesquet, président de CFC Développement.
Merci beaucoup Audrey. Tout de suite, place à notre invité.
Les invités du carré.
Alors Bernard Defesquet, nous l'avons dit, président de CFC Développement, pouvez-vous nous présenter CFC Développement, nous parler de son histoire ?
Alors l'histoire de CFC Développement est assez originale dans la mesure où, d'abord, qu'est-ce que veut dire CFC ? Alors tout le monde pense à Compagnie Française de Construction, des choses comme ça. Pas du tout, ça veut dire Compagnie Française des Cinémas. Et c'est une société qui est née de la volonté de mon père en 1928 et qui était une société d'exploitation de salles de cinéma, de production de films, qui était, voilà. Donc moi, j'ai été élevé dans cette ambiance et l'histoire a fait que je me suis orienté tout à fait différemment. Mais néanmoins, j'ai repris la société en 1982. J'ai continué et repris donc l'exploitation cinématographique que j'ai petit à petit diminué dans le chiffre d'affaires de la société. Et donc un premier virage a été pris en 82, 83, dès le début, où j'ai commencé à être un peu prestataire de services pour différents développeurs immobiliers. Ensuite, en 86, j'ai commencé à prendre des participations et à monter des sociétés, des SCI, de commencer à réaliser quelques opérations. Et en 90, j'ai commencé un métier qui était le métier de développeur, c'est-à-dire de recherche de foncier, d'imaginer des bâtiments, de les construire, de les louer et ensuite de les gérer. Un dernier virage a été pris très récemment, puisque ça date des années 2019-2020, où j'ai dû abandonner mon business model de développeur pour redevenir promoteur en raison de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, dans la mesure où, comme je détiens 100% du capital de mes sociétés, les immeubles étaient dans mon assiette d'IFI à titre personnel, et donc ça devenait insupportable. Donc j'ai dû vendre l'ensemble de mes bâtiments, ou la quasi-totalité de mes bâtiments. Et maintenant, mon métier est de promoteur immobilier, mais de vrai promoteur immobilier, c'est-à-dire à nouveau on achète des terrains, on construit des immeubles, on recherche des locataires. Une fois qu'on les a, on présente l'investissement à des investisseurs, et ensuite quelquefois ils nous donnent la gestion de ces immeubles. Voilà. En attendant que l'IFI me permette de reprendre mon vrai métier de développeur.
Mais vous n'êtes plus propriétaire des murs que vous développez actuellement.
Eh non, je ne peux plus être propriétaire. Je ne peux plus être propriétaire.
Ça coûte trop cher.
En tout cas, pas à long terme. Non, c'est pas trop cher. C'est que vous avez un impôt.
Oui, c'est l'impôt, je veux dire, coûte trop cher.
5%. Ah, l'impôt, oui. Oui.
En France, en tout cas, aujourd'hui, ça coûte trop cher d'être propriétaire des murs par rapport à l'IFI.
Ah oui, ça c'est faut admettre que c'est un impôt qui a dissuadé bon nombre d'investisseurs, personnes physiques en tout cas, même à travers des outils, d'être propriétaire d'immeubles. Et d'ailleurs, on le voit avec le marché locatif dans le logement qui se réduit beaucoup.
Alors aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans la classe d'actifs bureaux. C'est bien ça, hein?
Alors, tout à fait. Ma vraie spécialité, ce sont les parcs de haute technologie, à l'image de ce que m'ont enseigné les développeurs américains, c'est-à-dire des bâtiments de recherche et de développement, le R&D. Et donc, à l'époque, avec d'autres casquettes, j'ai développé une chaîne de parcs qui s'appelle d'ailleurs toujours les Parcs Club. Il y en a 17 ou 18 en France. J'en ai conçu 16 ou 17. Voilà, ça, c'était ma vraie spécialité. Ensuite, j'en ai développé deux en toute propriété au départ, qui était le parc Ariane à Saint-Quentin-en-Yvelines, et actuellement je continue avec un toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'appelle Omega Park. C'est quelque part la demande qui nous était faite de transformer nos bâtiments qui à la base étaient du laboratoire de la recherche à rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage, des bâtiments R+1. Petit à petit, ça a évolué en 100% tertiaire. Et avec les charges foncières que nous avions et les demandes que nous avions, on a commencé à rajouter des étages et à faire des bureaux presque classiques. Il n'en reste pas moins que la plupart de mes immeubles sont faits dans le cadre de campus et non pas d'immeubles en milieu urbain, classiques.
Donc plutôt en périphérie.
Plutôt en périphérie, plutôt sur des terrains avec des espaces verts très développés, assez sophistiqués, depuis toujours, hein, en contact avec l'extérieur, avec des fenêtres qui s'ouvrent, avec de la lumière, avec des terrasses, voilà.
Et du coup, alors, est-ce que Montpellier, on peut dire que c'est un territoire porteur pour un opérateur immobilier de bureau?
Moi, j'ai commencé à Montpellier avec d'autres casquettes, mais en 1973. Mmh. Donc, à l'époque, d'abord, il n'y avait pas de broker, il n'y avait pas d'agent immobilier, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas grand-chose. Et il n'y avait pas beaucoup de clients non plus. Et donc, on a commencé par des bâtiments PME, les petites et moyennes entreprises, et des ateliers, ce qu'on appelait les antennes d'entreprise, c'est-à-dire des petits immeubles individuels qui faisaient 30% de bureaux, 70% d'activités et d'activités diverses, hein, et pas forcément là de la recherche et du développement. Ça pouvait être de l'artisanat. On a commencé comme ça, petit à petit. Je veux dire, le marché est apparu. On a fait des bâtiments qui étaient 50% bureaux, 50% d'activité, jusqu'à, je dirais, les années 80-85, où bon, un certain nombre de brokers sont venus s'installer. Et on a commencé à faire, moi je tournais à 2000 mètres carrés, grosso modo 2000 mètres carrés par an, à partir de Paris, hein, je n'avais pas d'antenne à Montpellier, comment dirais-je, c'était un marché qui faisait entre 5000 et 10 000 mètres carrés par an, hein, c'est un tout petit marché. Et ça a bien évolué. Un certain nombre de brokers sont arrivés. Un certain nombre de promoteurs nationaux ont commencé à s'intéresser, plutôt en logement d'ailleurs qu'en bureau. Et donc le marché a progressé. Il a été pendant longtemps aux alentours de 25-30 000 mètres carrés. J'entends d'immeubles de promoteurs, hein, voilà, à peu près par an. Et on arrive aujourd'hui certainement à quelque chose qui doit représenter 40 à 50 000 mètres carrés de bâtiments de promoteurs, ce qui représente un pourcentage relativement important par rapport au marché par lui-même que vous avez rappelé et qui fait un peu plus de 100 000 mètres carrés. Ça reste néanmoins, un petit marché.
Alors justement, petit marché, est-ce que c'est une de ses faiblesses? Et sinon, quelles sont les faiblesses de ce territoire, Montpellier?
J'ai pas envie de critiquer, de parler de faiblesses. Je pense que Montpellier est essentiellement une ville dynamique, une ville audacieuse, avec de temps en temps, des petites difficultés, je dirais administratives, un peu de perfectionnisme, peut-être quelque part aussi une très très grande recherche de l'originalité, mais c'est une ville passionnante, extrêmement dynamique, jeune. Je ne parlerai pas de faiblesse, hein. Le marché est petit, mais il est assez dépendant du corporate, des grands brokers nationaux et internationaux. Là, peut-être que voilà, Montpellier, sans l'appui de la structure nationale et internationale, on aurait quand même, Montpellier aurait du mal à maintenir un marché tel qu'il a aujourd'hui. Hein.
Il y a un problème de pénurie de foncier, non?
Alors, il y a un problème de pénurie de foncier. Attendez. Je veux dire, il faut pas exagérer. Beaucoup de fonciers ont été mis en valeur ces dernières années. Il reste quand même pas mal de fonciers. Il s'avère quand même qu'on est en train de parler de Montpellier, de la métropole de Montpellier, mais à côté vous avez la communauté d'agglomération du Pays Loire avec des communes qui disposent de fonciers. On ne sait pas pourquoi. Si on sait pourquoi, mais ça va pas durer. Il y aura une fusion entre ces différentes communautés d'agglomération. Quand on veut du foncier, on en trouve. Voilà, on n'est pas dans une île. Voilà. Je pense que c'est long à fabriquer le foncier, c'est long à mettre en valeur. Aujourd'hui, il y a des problèmes environnementaux et on considère à juste titre beaucoup la vie des gens qui y habitent. Donc tout ça, c'est long. Hein. Mais non, il y a de quoi accueillir des entreprises à Montpellier.
Alors justement, comment donner envie à ces entreprises, envie encore plus, hein, leur donner encore plus envie à ces entreprises d'investir? Comment rendre le marché de Montpellier encore plus attractif qu'il ne l'est déjà?
Écoutez, je ne pense pas qu'il relève de mon métier de participer à ça, si ce n'est en essayant de faire des immeubles de qualité où les gens se sentent bien. Je pense que c'est une notion d'attractivité de la ville. Et là, la ville est très dynamique sur ce plan. Peut-elle l'être encore plus? Certainement, on peut toujours mieux faire. C'est faire venir des gens de tous les coins du monde, développer la culture, développer le bien-être sur place. On a tout. Il y a la mer, il y a le climat, il y a même des stations de sports d'hiver pas loin. Il y a tout à Montpellier pour être heureux. Voilà.
Et dernière question, à quoi ressembleraient pour vous les bureaux de demain?
Alors, je dois admettre que si j'avais la réponse à cette question, je garderai cette réponse et j'essaierai de la mettre en pratique. Et je vous le dirai en tout cas pas à vous, hein, et pas en public. La vérité, c'est que je n'en sais rien du tout et que je pense pas qu'il y ait grand monde qui le sache. La question qui se pose, elle est plus profonde que ça. Est-ce que les gens ont encore envie de travailler dans des lieux fixes, enfermés dans des immeubles? Est-ce que c'est ça qui va perdurer? Je n'en sais rien du tout. Quand vous regardez l'histoire des civilisations, ça fait pas très longtemps qu'on travaille pour vivre. Peut-être 3 siècles avant, les occupations c'était pas ça du tout. C'était la culture, la chasse, le chercher à manger, mais pas du tout s'acheter 3 télévisions, 5 voitures, machin. C'était pas du tout le travail n'était pas représentatif du rang social. Au contraire. Hein, les aristocrates dont je suis ne devaient pas travailler. Ils s'épousaient des femmes riches et ils vivaient avec la dot et les propriétés de leur épouse. Non, je ne sais pas si les gens ont envie de travailler, comment ils vont avoir envie de travailler demain. Quand je parle avec mes enfants, ils n'ont sûrement pas envie de travailler comme je travaille.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci.
Surtout, vous déposez un brevet.
Oui, c'est vrai.
On y travaille.
On y travaille, c'est ça. Merci beaucoup Bernard Defesquet. Je rappelle que vous êtes président de CFC Développement et donc vous nous l'avez dit en début d'émission, hein, pour Compagnie Française de Cinéma. Et c'est vrai qu'on n'y pensait pas forcément.
Ouais.
Merci infiniment Audrey Jourdain, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Mag au Carré.
Le Mag au Carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.